Samahani, belle opus de Dobe Niaoré, fille de l'illustre Boni Niaoré, ambassadrice de la culture ivoirienne à l'étranger et détentrice d'un Grammy Award. Ce titre qu'on vient d'écouter est une invitation à désarmer les cœurs et à pardonner. Vous êtes toujours sur Radio de la Paix en compagnie de Mel Emmanuel dans vos oreilles. Dans quelques instants, vous aurez le premier point de l'actualité avec Jean-Claude Mabéa.
De la paix. Il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Jean-Claude Mabéa.
Mesdames, Messieurs, vous avez bien raison d'écouter la première édition de l'actualité de ce vendredi 8 décembre 2023 sur Radio de la Paix. Les titres à présent. Commémoration du 30e anniversaire de décès du président Félix Houphouët-Boigny. Les paysans de Côte d'Ivoire ont rendu hommage à feu le président Houphouët-Boigny le samedi 2 décembre dernier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Nous y reviendrons dans quelques instants. Environ 25 000 agents des collectivités locales de Côte d'Ivoire souhaitent la réinstauration de l'indemnité de départ à la retraite qui a été supprimée en 2022 à travers un cri de cœur lancé au chef de l'État. À l'international, la tentative de coup d'État en Sierra Leone, l'ex-président Ernest Bai Koroma, convoqué par la police. L'invité de la rédaction de ce jour est le directeur général de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Le général Tondo Sama Adama parlera de la politique nationale de conservation et de protection du parc national de Taï. Il sera interrogé par Stéphane Adams, notre correspondant régional permanent dans le Tonkwi en fin d'édition. Mais avant, la revue des titres des journaux sera présentée par Francis Cassi. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. 7 décembre 1993, 7 décembre 2023, 30 ans aujourd'hui que le président Félix Houphouët-Boigny nous a quittés. Une minute de silence. En prélude à cette commémoration, les paysans de Côte d'Ivoire lui ont rendu hommage le samedi 2 décembre dernier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Une cérémonie marquée par des témoignages et une conférence publique sur le syndicat agricole africain. Émile Yao.
Félix Houphouët-Boigny, le planteur et paysan, 30 ans après son décès, reste toujours vivace dans la mémoire de ses pères paysans ivoiriens.
Ce que je retiens le plus du président Houphouët-Boigny, c'est qu'il a été un grand syndicaliste.
Houphouët est le catalyseur.
Déjà en 1932, il a crié à Bangourou, on nous a trop volé.
Autre temps fort de la cérémonie, la conférence au public sur le syndicat agricole africain. Occasion pour le professeur Joseph Kobi de rendre hommage à Houphouët-Boigny pour son rôle important au sein de ce syndicat africain tremplin de la lutte pour l'émancipation de la colonie.
Notre axe de réflexion se décline autour de trois parties. Le premier évoque le contexte général de la naissance du syndicat agricole africain de Côte d'Ivoire. Le second fait le point des luttes de ce syndicat. Quant au troisième, il aborde l'intervention des planteurs africains dans l'arène politique.
Pour le professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation, Félix Houphouët-Boigny se serait fait preuve d'injustice, voire de manquement, que de parler d'Houphouët-Boigny sans associer ses pères paysans.
Le président Houphouët lui-même se présentait toujours comme un paysan, comme un planteur. Donc j'ai trouvé qu'à la fin des commémorations que nous avons commencées depuis janvier, il fallait laisser une plage pour les paysans, pour vraiment honorer Félix Houphouët-Boigny, premier paysan de Côte d'Ivoire.
Débuté en janvier dernier, la commémoration du 30e anniversaire du décès du président Houphouët-Boigny et du cinquantenaire de la Fondation qui porte son nom s'achève ce jeudi 7 décembre 2023. Par une messe d'action de grâce en la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Retour sur les élections locales partielles du 2 décembre dernier. Pour s'assurer du bon déroulement de ces élections, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP, avait déployé ses observateurs sur le terrain dans les 10 circonscriptions concernées. Docteur Bogassa Kojervin, le président de la FIDOP, que nous écoutons à présent, a salué le triomphe triomphe de la démocratie.
Mais écoutez, la FIDOP, la Fondation des droits de l'homme et de la vie pacifique, a déployé sur le terrain une quinzaine d'observateurs indépendants des élections. Et les rapports nous sont parvenus et nous avons sorti donc un point global de la situation. Premièrement, il faut saluer les populations. Les populations ont été très disciplinées en respectant d'abord la décision du Conseil d'État. Ce n'était pas évident parce que dans certaines localités, tout s'était bien passé la première fois, mais quand même, l'annulation a été proclamée et les populations se sont soumises à cette décision, de même que les candidats. Le taux de participation dans la plupart de ces localités avoisine les 50%. Ça veut dire que les gens ne se sont pas découragés, mais bien au contraire, elles ont été motivées davantage. Et au regard des résultats, mais c'est la démocratie qui a triomphé. Parce que sur le nombre des candidats, il y a eu 6 indépendants.
Docteur Boga Sako, 6 indépendants sur les 10 circonscriptions électorales, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Ça signifie pour nous que partout dans le monde, la démocratie ne s'appuie pas sur des partis politiques, mais c'est le peuple.
Docteur Boga Sako Gervais, le président de la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, FIDOP, a été joint par Soro Adams. Le gouvernement ivoirien veut mettre un terme à l'acquisition frauduleuse de la nationalité ivoirienne à travers des mariages complaisants. C'est tout le sens du projet de loi que les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont adopté à l'unanimité le mercredi 6 décembre dernier à l'Assemblée nationale. Projet de loi défendu par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, après l'adoption du texte. On l'écoute.
Notre pays, de 2004 à 2013, a engagé une réforme législative, la loi relative à l'acquisition de la nationalité par le mariage. Cette réforme a abouti à l'établissement d'un traitement égal entre l'homme étranger qui épouse une Ivoirienne et la femme étrangère qui épouse un Ivoirien. Malheureusement, cette réforme des dispositions relatives à l'acquisition de la nationalité par le mariage a conduit donc à la multiplication de la fraude en matière de nationalité sur le mariage par le biais donc des mariages de complaisance. Et donc c'est pour lutter efficacement contre cette fraude que j'ai proposé, au nom du président de la République, un projet de loi modificatif des dispositions du Code de la nationalité. Il s'agit pour l'essentiel de supprimer l'acquisition automatique de plein droit par le mariage de la nationalité ivoirienne par le conjoint étranger. C'est-à-dire que dorénavant, cette nationalité ivoirienne ne pourra être acquise par le conjoint étranger qu'après un délai de 5 années à compter de la célébration du mariage. Le conjoint étranger devra donc souscrire à une déclaration visant à obtenir la nationalité ivoirienne. Et ce délai probatoire de 5 ans est réduit à 3 ans en cas de présence de au moins 2 enfants du couple. Il s'agit donc d'une réforme essentielle. C'est la raison pour laquelle vous avez pu constater l'intérêt des députés pour ces dispositions. Il va nous permettre donc de juguler les questions relatives à la fraude sur l'acquisition de la nationalité par le mariage.
C'était le garde des Sceaux, le ministre de Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé. Nous vous le disions en titre, environ 25 000 agents des collectivités locales de Côte d'Ivoire souhaitent la réinstauration de l'indemnité de départ à la retraite qui a été supprimée en 2022 à travers un cri de cœur lancé au président de la République. Il qualifie d'illégal cette décision de la Direction générale de la décentralisation. Là-dessus, écoutons les explications de Alassane Terra, le secrétaire général national du SINAPECOSI, le syndicat national du personnel des collectivités de Côte d'Ivoire.
Nous avons plusieurs préoccupations, mais la préoccupation majeure de l'heure, c'est les indemnités de départ à la retraite ont été supprimées par notre tutelle. Aujourd'hui, nous interpellons le chef de l'État parce que cette suppression a été faite sur une base purement illégale, parce qu'il y a une circulaire du ministre Vagondo qui permet le paiement de cette indemnité. Donc, la suppression a été faite de façon verbale, au mépris de la circulaire. Nous avons fait un recours gracieux vis-à-vis du directeur de la décentralisation. Nous avons fait un recours hiérarchique vis-à-vis du ministre. Il n'y a pas eu de suite. Donc, aujourd'hui, nous interpellons le chef de l'État. C'est le père des collectivités. Au lieu de bien intervenir, le 15 décembre, nous devons faire une déclaration à l'auditorium de la Bourse du Travail pour les agents. Ça, c'est en prévision d'une grève qui sera lancée bientôt.
Et si le 15 décembre, vous n'avez pas gain de cause?
L'ultime moyen d'un syndicat, c'est la grève. Si nous n'avons pas gain de cause, on va envisager de faire une grève. Nous voulons faire l'économie d'une grève à notre population. Notre souhait, c'est qu'on ait une relève attentive et que le problème des indemnités pour des agents qui ont travaillé 40 ans, 30 ans pour l'État du Côte d'Ivoire aille à la retraite de la précarité. Nous trouvons que c'est un drame.
Et ça avait été toujours fait et brutalement, ça a été arrêté.
L'indemnité est payée depuis 1980. Depuis la communalisation en Côte d'Ivoire, l'indemnité est payée sans problème. Elle a été arrêtée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2022, dernièrement. Et sans base légale. Notre souhait est clair, il faut que ce soit réinstauré, il faut que la circulaire du ministre qui permet de payer soit appliquée intégralement.
À la Santéra, le secrétaire général national du SINAPECOSI, le syndicat national du personnel des collectivités de Côte d'Ivoire, était en ligne avec Constant Maillet. Tout autre chose dans cette édition, le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, lancé le 1er août 2021 à la station piscicole de la Loka à Bouaké, était récemment le sujet au centre de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, dénommée Tout Savoir Sûr. Modibo Samake, coordonnateur général du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, était l'invité de ce rendez-vous d'échange. Après 2 années d'activité du programme, Modibo Samake nous situe ici sur le niveau de développement de la chaîne de valeur et surtout sur comment le programme entend relever le défi important de l'importation de produits halieutiques.
La pisciculture est une branche spécifique de l'aquaculture qui se concentre uniquement sur l'élevage des poissons. Pourquoi l'aquaculture? La consommation de poissons par habitant en Côte d'Ivoire est estimée à 24,9 kg par an, l'un des taux les plus élevés au monde. Cependant, notre production nationale de produits halieutiques, qui s'élève à plus de 105 000 tonnes, dont 6300 tonnes issues de l'aquaculture, ne satisfait que 17% des besoins, estimé à près de 650 000 tonnes. Au titre de la mise en œuvre d'un cadre institutionnel favorable au développement de l'aquaculture, le gouvernement a développé des politiques et incitations pour attirer de nouveaux investissements dans ce secteur, susciter la création d'entreprises aquacoles, soutenir l'innovation et créer une plateforme de traçabilité et de certification des produits aquacoles. Au titre de la vulgarisation des acquis, le PSTACI sera promu par l'intermédiaire d'un vaste plan de communication pour sensibiliser les investisseurs et les consommateurs ivoiriens aux enjeux et opportunités de l'aquaculture. Pour se lancer en aquaculture, il faut être formé. Il existe des institutions de formation spécialisées dans l'aquaculture, notamment l'Institut national de formation professionnelle agricole en Côte d'Ivoire, qui offre des formations diplômantes, et d'autres acteurs privés qui offrent des formations qualifiantes.
C'était Modibo Samake, coordonnateur général du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Un mot de santé dans ce journal. Toute maladie du cancer n'est pas une fatalité si elle est vite dépistée, notamment celle de la prostate. Annoncée récemment aux populations, la présidente de la coalition des organisations de lutte contre les cancers lors d'une conférence publique, Maître Fatou Fadiga.
Le cancer, c'est d'abord une question d'ignorance. Nous nous rendons compte que le cancer, c'est une maladie qui est bien répandue chez nous et que malheureusement, nous ne constatons pas assez tôt que nous sommes dans une situation de cancer, ce qui fait que les dégâts sont importants. Le cancer de la prostate, c'est une des maladies négligées. On ne sait pas ce que c'est, on n'en parle pas. Nous, coalition d'organisation de lutte contre le cancer, notre travail, c'est de porter la parole, de la sensibilisation, de dire à nos populations, il faut se réveiller tôt pour ne pas en mourir. Que le cancer n'est pas une maladie qui conduit forcément à la mort. Nous l'avons fait pour les cancers féminins, principalement le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. Nous voyons que la mayonnaise a pris. Aujourd'hui, on n'a pas honte de dire qu'on a un cancer du sein. Nous avons des témoignages. Ces témoignages qui disent, voilà, je suis malade, je fais front. Et d'autres cas, j'ai été malade, je suis guéri. Ça permet donc de lever des tabous et d'encourager les gens à aller rechercher leur statut. C'est important parce que c'est de connaître son statut qui permet de guérir. Nous avons donc décidé de faire la même chose pour le cancer de la prostate. Nous ne sommes pas médecins, nous avons besoin de transmettre un message juste et c'est avec l'accompagnement des professionnels de la santé que nous le faisons. Et nous avons voulu cette conférence et non seulement une conférence centrale, mais une conférence ouverte. Donc, nous avons doublé d'un webinaire. Pour nous, c'est très important et c'est notre engagement. Nous allons faire en sorte que le cancer de la prostate soit mieux connu et que tout le monde puisse savoir qu'il faut faire un dépistage précoce pour également se prémunir d'une maladie grave.
Nous venons d'écouter Maître Fatou Fadika. Elle est la présidente de la coalition des organisations de lutte contre les cancers. Dans l'actualité hors de nos frontières, l'ex-président sierra-léonais Ernest Bahi Koroma a été convoqué jeudi par la police dans un délai de 24 heures pour être entendu sur les événements du 26 novembre dernier, qualifié de tentative de coup d'État par le gouvernement, a appris l'agence France-Presse auprès du ministère de l'Information et des Services. Ernest Bahi Koroma, qui a dirigé la Sierra Leone de 2007 à 2018, doit se rendre ce vendredi au siège du département des investigations criminelles à Freetown, la capitale. Il est convoqué pour assister la police dans l'enquête en cours sur les événements du 26 novembre, affirme un communiqué signé par le ministre de l'Information, Chernor Ba. Sans transition, nous retrouvons Francis Cassi pour la revue des titres des journaux parus ce jour. Bonjour Francis.
Bonjour Madea, bonjour à tous. Le PDCI, toujours à la une de vos journaux, par rapport à l'élection le 16 décembre prochain, pour lui trouver un nouveau président après la disparition le 1er août 2023 de son charismatique et emblématique président Henri Konan Bédié. C'est par ce sujet que nous ouvrons l'examen de leur titre ce vendredi. Et à ce propos, notre voix fait sursauter le lecteur avec cette interrogation. Bataille pour le contrôle du PDCI-RDA. Guy Kayué en mission pour le RHDP. Quand l'Inter lui indique des vérités sur le PDCI et le CATIAM, l'analyse d'un politologue. Pendant que le temps, se voulant sachant sur ce qui devait se passer hier, mais qui ne l'a pas été à ce titre. Candidat à la présidence du PDCI, pourquoi la liste n'a pas été publiée hier ? L'élection d'un nouveau président de la jeunesse du RHDP ce samedi intéresse aussi depuis un moment vos quotidiens, notamment le patriote qui a cet effet écrit « Élection du président des jeunes du RHDP, qui sont les 1290 électeurs ?» Ainsi que le jour plus avec « Élection du président de la JRHDP demain, l'appel du comité d'organisation aux 27 candidats ». Avant que, terminant sur le sujet des élections dans les trois grands partis, le temps concernant le parti de Laurent Gbagbo naît cette manchette. Présidence des Ligues des Jeunes et des Femmes du PPACI. Voici la liste provisoire des candidats. Et puis hier, le 7 décembre, marquait le 30e anniversaire du décès du premier président ivoirien, Félix Faubourny. Et la Côte d'Ivoire a commémoré l'événement avec en tête le président ivoirien Alassane Ouattara qui dit « Sur Fraternité Matin d'aujourd'hui, nous continuerons de nous inspirer de ses idéaux. » Ce sur quoi renchérit le nouveau réveil titrant. Célébration du 30e anniversaire du décès du père fondateur Oufoué Boigny. Le PDCI et la Côte d'Ivoire se souviennent et prient. Enfin, terminons notre revue des titres de vos tabloïdes de ce jour avec le premier ministre ivoirien quant à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire de janvier à février 2024. Cannes 2023, Georgie, moins 36. Beugré Mambé invite les religieux à prier pour la réussite totale, annonce le quotidien Le Soir ivoirien. En retour, ces derniers se disent prêts à en croire l'avenir qui note. Réussite de l'organisation de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, les religieux rassurent Mambé et s'engage à ses côtés. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous Francis Cassi. Je rappelle que vous reviendrez dans ce studio vers la fin de l'édition de 8h pour le même exercice. Nous arrivons maintenant à la dernière articulation de ces 7h. L'invité de la rédaction, dans le cadre de la mise en œuvre de l'aménagement et de la gestion du parc national de Taï, d'importantes actions ont été menées par les partenaires techniques et financiers, les ONG, les populations riveraines et l'Office ivoirien des parcs et réserves. Le directeur général de l'OIPR, le général Tondo Sama, fera donc dans quelques instants la lumière sur, dans cet entretien sur la politique nationale de conservation et de protection du parc national de Taï. Entretien conduit par Stéphane Adams, notre correspondant régional permanent dans le Tonkin.
Général Tondo Sama Adama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Alors, depuis des jours, l'on observe une série d'activités menées par l'OIPR à Guéglo, dans le Cavali. Situez-nous un peu le cadre de ces séries d'activités.
Merci pour l'opportunité que vous me donnez pour parler des activités de l'OIPR. Il faut dire que l'activité qui a eu lieu aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du suivi des activités qui sont menées au niveau du parc national des Taïs. Et comme vous le savez, au niveau du parc national des Taïs, il y a un comité de gestion locale qui se réunit chaque trimestre pour faire le point des activités. Vous avez pu le constater qu'aujourd'hui, ils ont présenté le bilan des plans d'opération 2023 où nous avons vu qu'il y a une performance de 77%. Cela veut dire que les activités se déroulent conformément à ce qui a été planifié. Le deuxième élément qui a été présenté, c'est l'état des activités qui sont mises à la périphérie du parc national des Taïs. Et là, vous avez pu constater qu'il y a 64 micro-projets qui sont en cours de développement. Et ces micro-projets sont des micro-projets d'élevage, des micro-projets d'infrastructures sociales pour les populations riveraines. Et le suivi est fait par CARE International, qui est notre partenaire, grâce à un financement de la Banque mondiale. Et le troisième élément qui est important, c'est le prix vert qui est attribué chaque année. Il faut dire que cette année, on a pu faire le bilan pour faire le point, la sélection des villages. Il y a trois villages qui ont été sélectionnés et les prix qui seront distribués à hauteur de 10 millions de francs CFA qui sera réparti entre les trois gagnants. Et ces trois gagnants ont décidé de faire quelques réalisations en termes d'infrastructures. Pour certains villages, c'est des foyers de jeunes. Pour d'autres, c'est l'achèvement de la construction du logement de l'instituteur et de l'infirmier. Donc voilà une série d'actions qui sont menées. Donc il faut dire que cette activité vraiment est importante pour nous parce que ça permet de savoir exactement qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il reste à faire pour assurer la gestion durable du parc national des Taïs.
Et qu'est-ce qu'il reste donc à faire suite à ces résultats probants?
Il reste beaucoup à faire. Vous le savez, le parc national des Taïs, c'est 536 000 hectares de forêt qu'il faut surveiller tout le temps. Donc déjà, les surveillants qui sont menés, il faut dire que nous devons continuer à mener nos activités de surveillance. Et le deuxième élément qui est important, nous devons continuer à sensibiliser nos populations qui vivent à la périphérie de cette aire protégée. Et puis comme vous le savez, on ne peut pas gérer cet espace sans tenir compte du développement social et économique de la périphérie. Donc nous allons mettre encore des moyens pour aider les populations qui vivent à la périphérie de cette aire protégée.
Tout à l'heure, vous avez noté un taux de réalisation très satisfaisant. Qu'est-ce qui a motivé en faveur de ces résultats?
Mais je pense que c'est la mobilisation premièrement de nos agents, des agents de l'OIPR, qui ont fait leur devoir de mettre en œuvre le plan d'action que nous avons défini ensemble en début d'année 2023. Les deuxièmes acteurs, ce sont les populations riveraines. Vous avez pu le constater. Ces populations sont impliquées. On les utilise comme des auxiliaires pour aider nos équipes à travailler en matière de suivi, en matière de suivi écologique. Mais le troisième acteur qui, pour moi, est très important, c'est la mobilisation de toutes administrative. Vous avez pu le constater, tous les préfets de la région étaient là, les sous-préfets étaient là. Ces autorités administratives participent activement aux actions de sensibilisation auprès des populations. Donc je peux dire que ce qui a pu être fait, c'est grâce à l'effort de tous, à l'effort conjugué de toutes ces personnes. Et vous pouvez le constater tout à l'heure quand on présentait les actions, c'est à la périphérie, c'est CARE International qui met en œuvre. Donc ça veut dire que la satisfaction qui se dégage, c'est que cette structure nous aide à mieux encadrer les populations, à apporter des appuis aux populations. Donc c'est une action commune de l'OIPR, de ses partenaires, notamment les autorités administratives, les populations riveraines et les partenaires techniques et financiers, la GIZ et autres qui nous aident, la WC qui nous aide à sensibiliser la population. Donc voilà une série d'actions, une série d'acteurs qui intervient pour la mise en œuvre de toutes ces actions-là.
Autre information, c'est que désormais la forêt classée du Cavali est intégrée dans les réserves naturelles que vous devez surveiller. Qu'est-ce qui a motivé cela?
Mais il faut signaler que dans le cadre de la préservation des forêts en Côte d'Ivoire, le ministère des Eaux et Forêts a défini une stratégie qu'on appelle la politique de réhabilitation et d'extension des forêts pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays forestier. Donc l'un des objectifs était que toutes les forêts classées qui sont en bon état de conservation puissent être surclassés. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a la forêt classée de Mabi, la forêt classée de Yaya, la forêt classée de Bossé-Mato ont été surclassées. Et tout dernièrement, je crois le mois en septembre dernier, le gouvernement a décidé que la forêt classée de Cavali soit surclassée pour devenir réserve naturelle de Cavali. Et donc, dès que ça passe dans le domaine des aires protégées, ça devient le domaine d'intervention de l'OIPR. Donc du coup, je peux dire que ça a été surclassé pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre l'un de ses objectifs, c'est-à-dire augmenter la couverture forestière ivoirienne. D'autres intérêts, vous le savez, hein, l'intérêt des aires protégées, c'est que quand il y a une aire protégée dans une zone, ça crée des services écosystémiques. Tout le monde le sait. Quand vous prenez le parc national des Taïs aujourd'hui, grâce au parc national des Taïs, on a une forte pluviométrie au sud-ouest et du coup, tout ce qui est production agricole se développe davantage. Donc, en augmentant la superficie forestière dans cette zone, on ne fera qu'accroître la productivité des populations qui vivent à la périphérie de ces aires protégées-là.
Qu'est-ce qui sera fait pour sa protection véritable?
Mais pour sa protection véritable, nous allons déployer les mêmes moyens que nous développons au niveau du parc national des Taïs. Notamment, nous allons développer des activités de surveillance. Nous allons développer des activités de connaissance de l'espace par le suivi écologique. Et nous allons mener des activités de sensibilisation des populations sur la périphérie. Et nous allons développer des activités alternatives, des activités d'appui aux populations pour nous aider à mieux préserver l'espace. Donc c'est véritablement les fonctions de gestion d'une aire protégée qui vont être appliquées à cette réserve-là. C'est dire aux populations riveraines que ces espaces qui sont devenus aires protégées, c'est pour leur bien. Donc je leur demande d'en faire une gestion patrimoniale, faire en sorte que nous mettons ensemble l'OIPR, toutes ces populations riveraines puissent se mettre ensemble pour que nous puissions avoir une vision commune de préservation et puis de valorisation des espaces plus tard.
Merci, général.
Merci à vous aussi.
L'invité de la rédaction de ce vendredi, le général Tondo-Sama Adama, directeur général de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, se prêtait aux questions de Stéphane Adams, notre correspondant régional permanent dans le Tonkoui. Cet entretien que vous pourrez réécouter à 12h met un terme à cette édition, le rappel du principal titre de ce journal. Commémoration du 30e anniversaire de décès du président Félix Houphouët-Boigny. Les paysans de Côte d'Ivoire lui ont rendu hommage le samedi 2 décembre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il est 7h passé de 23 minutes à Yamoussoukro. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 8h pour un nouveau point sur l'actualité. Vous êtes sur Radio de la Paix. La suite, c'est avec Mel Emmanuel pour les matins de la paix.
Radio de la Paix. Se parler. S'écouter.